De l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le monde aujourd'hui avec Chérubin Dorcil et Morgane Guiriec en direct de Washington. Ravi de vous retrouver à l'écoute de VOA Afrique.
Les grands points de l'actualité, rapatriement par l'Algérie de plusieurs milliers de migrants venus du Niger.
Au Burundi, l'opposition et la société civile réclament l'arrêt du processus d'enregistrement des électeurs.
Si le fichier est faux et il va être faux, les partis de l'opposition vont accepter un faux fichier qui va conduire aux fausses élections.
En RDC, les réactions se multiplient suite à l'annonce de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale.
Les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. Il a fallu qu'on en tienne compte. Nous déplorons cela et nous aimerions qu'on tienne compte des compétences des femmes.
La chasse aux pro-morsis se poursuit en Égypte. Des dizaines d'étudiants en passent d'être jugés. Et nous aurons notre page économique, les sports et la musique, mais d'abord le journal.
L'Algérie a commencé à reconduire vers leur pays des milliers de migrants nigériens, en majorité des femmes et des enfants en situation irrégulière. Idriss Fall.
Selon l'AFP, un premier groupe de 318 personnes actuellement dans un centre d'accueil à Taman Rasset doit être ramené à Agadez, dans le nord du Niger. Saïda Ben Abiles, présidente du Croissant Rouge algérien, affirme que ces Nigériens ont beaucoup souffert des réseaux criminels qui les ont dépouillés de tout. Le mois dernier, devant le Parlement, le Premier ministre Brigui Raffini avait dit qu'il y avait près de 3000 Nigériens sans emploi vivant de la mendicité en Algérie. Le Niger, un des pays les plus pauvres du monde, partage une longue frontière avec le puissant voisin du Nord. En octobre 2013, au moins 92 Nigériens, pour la plupart des femmes et des enfants, sont morts de soif dans le désert en essayant de rejoindre l'Algérie.
Au Burundi, les électeurs ont encore 48 heures pour se faire enregistrer en vue des élections. Officiellement, la commission électorale assure que les opérations se déroulent selon les prévisions, mais l'opposition et la société civile demandent toujours l'arrêt du processus. Elles dénoncent des fraudes et l'incapacité de la CENI à créer une liste crédible. Frédéric Bomvogé-Nyumvira est le vice-président du FRODEBU, parti d'opposition burundais.
Notre préoccupation, c'était qu'on puisse soit arrêter le processus et trouver pratiquement le modus vivendi. Ça, c'était notre choix. On accuse pratiquement la CENI, on accuse les CEPI, les CECI, comme quoi ils ne sont pas à mesure de répondre aux préoccupations des Burundais par rapport à cette question du confectionnement du fichier électoral. Parce que si le fichier est faux, et il va être faux, les partis de l'opposition ne vont pas accepter un faux fichier qui va conduire aux fausses élections. Il est très clair. De toute façon, nous sommes en train de produire toutes les erreurs rencontrées sur le terrain et les porter à la connaissance de tout le monde, à la CENI, à la présidence de la République, à la région, pour que tout le monde sache les erreurs commises. Parce que, visiblement, la CENI ne peut pas, n'est pas capable d'apprécier l'erreur commise, le niveau d'erreur. Et pour autant que c'est comme cela, il ne va pas nous donner un fichier crédible. C'est ça le vrai problème.
Frédéric Bomvogé-Nyumvira du FRODEBU, joint par Nicolas Pinault.
En Ouganda, le président Yoweri Museveni affirme que son peuple refuse son départ de la présidence. À chaque fois que je me présente aux élections, ils sont 5 millions à me demander de ne pas partir, a-t-il déclaré lors d'une émission de radio citée par l'AFP. Yoweri Museveni, à la tête du pays depuis 28 ans, assure ne pas être avide de pouvoir et promet de répondre aux désirs de son peuple.
En Égypte, 71 étudiants de la prestigieuse université Al-Azhar vont être jugés. Ils sont accusés, selon le procureur de la République, d'appartenir à la confrérie interdite des frères musulmans et d'avoir participé à des rassemblements illégaux. Jean-Roger Bion.
Les 71 étudiants d'Al-Azhar, la plus haute institution de l'islam sunnite, ont été arrêtés depuis la reprise de l'année académique en octobre, suite à plusieurs affrontements avec les forces de sécurité. Ils sont accusés de participation à des manifestations illégales, de fomenter des troubles, d'attaques contre les forces de sécurité et d'appartenance aux frères musulmans, la confrérie de Mohamed Morsi, classée groupe terroriste par les autorités égyptiennes. Plusieurs centaines d'étudiants, d'après l'AFP, ont déjà été jugés pour des violences dans les campus, bastions, bastion des partisans du président islamiste, écarté par l'armée en juillet 2013. Au moins 14 étudiants ont été tués dans des heurts avec les forces de sécurité dans les campus au cours de la précédente année académique ayant pris fin en avril. Mohamed Morsi ainsi que plusieurs autres hauts responsables des Frères musulmans sont actuellement jugés passibles de la peine de mort.
Et en Égypte toujours, 33 hommes ont été arrêtés dans un hammam du Caire pour débauche. C'est ce qu'indique un responsable de sécurité que cite l'AFP. La débauche est un chef d'accusation utilisé contre les homosexuels, alors que la loi n'interdit pas formellement l'homosexualité en Égypte.
À noter aussi que le Canada a fermé son ambassade ce lundi au Caire. Des raisons de sécurité sont évoquées par les services consulaires. De même, l'ambassade de la Grande-Bretagne est restée fermée pour une deuxième journée consécutive.
Lutte contre l'Ebola, un avis néerlandais va retourner vers les pays touchés par le virus. Le départ du Karel Doorman est fixé à vendredi. C'est ce que dit l'AFP, qui cite le gouvernement néerlandais. Le navire distribuera du matériel hospitalier, des vêtements de protection, des véhicules et de la nourriture. L'équipement a été fourni par la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne et la France.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les ministres des Affaires étrangères de la Syrie et de l'Iran ont condamné les frappes aériennes menées par Israël près de Damas, disant que c'est une agression. Les frappes n'ont fait aucune victime, selon la télévision d'État syrienne. L'État hébreu n'a pas confirmé la nouvelle.
Les agences humanitaires des Nations Unies ont lancé un appel de fonds ce lundi à Genève pour un montant record de 16,4 milliards de dollars afin d'aider 57,7 millions de personnes en 2015. La crise syrienne, qui dure depuis 2011, a absorbé près de la moitié de l'aide. Le Soudan du Sud est la seconde priorité. Les autres crises majeures sont la République centrafricaine, l'Afghanistan, la République démocratique du Congo, la Birmanie, les territoires palestiniens occupés, la Somalie, le Soudan, l'Ukraine et le Yémen.
L'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, Patrick Gaspard, a déclaré que son gouvernement n'était pas au courant de négociations pour la libération d'un otage sud-africain tué samedi lors d'un raid américain au Yémen. Selon le diplomate, Washington ne savait pas non plus que l'enseignant sud-africain Pierre Corky était détenu au même endroit que le journaliste américain Luke Somers, dont la libération était l'objectif de la mission ratée. Les deux hommes, Corky et Somers, ont été tués par leurs ravisseurs, a-t-on appris de sources officielles. L'ambassadeur Gaspard rappelle que le président Obama a ordonné le raid parce que les militants d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique avaient menacé d'exécuter Somers.
Aux États-Unis, la ville de Berkeley en Californie a été le théâtre d'une deuxième nuit de manifestations violentes en réaction à la mort de deux Africains-Américains aux mains de la police. Jacques Aristide.
D'abord pacifique, la manifestation du dimanche soir qui avait débuté sur le campus de l'Université de la Californie a dégénéré après avoir gagné la ville voisine d'Oakland. Des actes de vandalisme et des tirs de gaz lacrymogènes ont été rapportés. Des manifestations ont également été organisées dans d'autres villes américaines, y compris New York, Philadelphie, Seattle, Chicago, Miami, de même que dans la capitale Washington DC. C'était pour protester contre les récents verdicts des grands jurys du Missouri et de New York qui ont décidé de ne pas poursuivre les policiers blancs impliqués dans la mort des deux Africains-Américains lors d'incidents différents.
When you're dealing with something as deeply rooted as racism or bias.
Dans un entretien à la chaîne Black Entertainment TV, le président Barack Obama a déclaré que le racisme est profondément enraciné dans la société américaine et n'est pas près d'être éliminé. Pour lui, il faudra donc du temps. Le président Obama a ainsi appelé à la patience en rappelant que le progrès vient habituellement en petites étapes.
Politique américaine, les Républicains consolident leur majorité au Sénat. Le député Bill Cassidy ayant battu la sénatrice Marie Landrieu en Louisiane au second tour. Les Républicains ont maintenant 54 sénateurs sur 100. Un dernier résultat des élections de mi-mandat reste inconnu. Un district de l'Arizona n'a pas fini de recompter les bulletins pour déterminer son futur représentant à la Chambre basse.
Le président américain Barack Obama a reçu ce lundi le prince William dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Les deux hommes ont eu un échange informel devant les journalistes, mais ils n'ont fait aucune déclaration publique. Entre-temps, l'épouse du duc de Cambridge, Kate, qui porte leur deuxième bébé, a visité un centre de développement pour enfants à New York en compagnie de la femme du maire Bill de Blasio, Shirlene McCrae. C'est la première visite du couple royal aux États-Unis depuis 2011, mais William, 32 ans, effectue sa première visite à Washington.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique.
La minute éco pour tout savoir sur l'actualité économique dans le monde. Pour en parler avec nous, Nathalie Barge. Bonsoir Nathalie.
Oui, bonsoir. On commence par cette nouvelle sur la pêche en Afrique de l'Ouest où, selon l'agence mauritanienne d'information, la Mauritanie a augmenté de 300 à 400 le nombre de licences de pêche accordées au Sénégal. L'accord a été signé le 4 décembre à Nouakchott par le ministre mauritanien de la pêche, Nani Ould Chrouga, et son homologue sénégalais, Oumar Gueye.
Et aux États-Unis, la Cour suprême a rejeté ce matin un appel interjeté par la compagnie pétrolière BP.
Oui, c'était pour annuler ses paiements aux entreprises n'ayant pas été en mesure de prouver que leurs pertes étaient liées à la marée noire de 2010 dans le golfe du Mexique. En 2012, British Petroleum a signé un règlement pour compenser les entreprises touchées par la catastrophe écologique provoquée après une explosion sur sa plateforme Deepwater Horizon, ayant tué 11 personnes et déversé l'équivalent de 4 millions de barils de pétrole dans les eaux du Golfe. On change de continent, direction l'Europe ou la zone euro, discutée à Bruxelles ce lundi sur le sort de la Grèce et d'une éventuelle extension de son plan d'aide dont l'échéance arrive le 31 décembre.
Un accord doit être trouvé d'ici le 15 décembre entre les créanciers et Athènes, n'est-ce pas ?
En effet, mais le commissaire européen en charge des affaires économiques, Pierre Moscovici, a déclaré en tout cas qu'il n'y aura pas de décision aujourd'hui sur une extension du programme grec.
La Troïka et la Grèce ont de nombreux désaccords qui empêchent le versement d'une dernière tranche d'aide de 1,8 milliard d'euros.
Oui, alors le Parlement grec a d'ailleurs adopté le budget 2015 la nuit dernière. Les créanciers disent qu'Athènes aura besoin d'au moins 2 milliards d'euros de recettes supplémentaires l'année prochaine pour atteindre ses prévisions économiques, ce que contestent les autorités grecques.
Voilà, c'était la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le Monde aujourd'hui, c'est aussi les sports. Nicolas Pineau, bonsoir.
Bonsoir.
Pour commencer, préparation à la CAN 2015.
L'Algérie se déplacera en Tunisie le 11 janvier prochain pour un match amical. C'est ce qu'indique la Fédération algérienne de football. Ce match contre la Tunisie, également qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, est le seul pour l'instant au programme de la préparation des Fennecs. Le sélectionneur de l'Algérie, le français Christian Gourcuff, dévoilera sa liste des 23 joueurs retenus pour la CAN le 15 décembre. La date limite pour la réception des listes a été fixée au 7 janvier par la CAF. On rappelle que lors de la CAN, l'Algérie évoluera dans le groupe C, jugé le plus relevé, avec l'Afrique du Sud, le Ghana et le Sénégal.
On jouera aussi en Ligue des Champions demain.
Et oui, dans le groupe A, l'Atlético Madrid, vice-champion d'Europe, est déjà qualifié. Jouera contre la Juventus de Turin, qui n'a besoin que d'un point. L'Olympiakos, qui jouera face à Malmö, espérera une défaite des Italiens. Dans le groupe B, les Red Devils de Liverpool auront besoin d'un succès face à Bâle. Sans enjeu, le Real de Madrid lui reçoit le Ludogorets. Et puis dans le groupe C, Monaco face à Saint-Pétersbourg et surtout Benfica contre le Bayer Leverkusen. Et puis dans le groupe D, à Istanbul, le Galatasaray qui reçoit Arsenal et Dortmund face à Anderlecht.
Et on peut parler d'une petite révolution au Comité international olympique.
Et oui, chérubin, puisque le Comité international olympique, réuni en session à Monaco, a autorisé ce lundi des candidatures jointes de villes ou de pays pour les prochains Jeux olympiques, ainsi que l'augmentation du nombre de sports au programme. Dans le cadre de l'agenda 2020 présenté par son président Thomas Bach, le CIO a autorisé des candidatures jointes des villes ou de pays, et ce dès les Jeux olympiques de 2024. Alors ces Jeux qui comptaient en Londres 2012, 26 sports, pourront également voir le nombre de sports au programme augmenter pour les Jeux olympiques d'été comme pour ceux d'hiver. Mais attention chérubin, tout en gardant la limite du nombre d'épreuves et du nombre d'athlètes.
Enfin Nicolas, les résultats NBA de la nuit dernière.
Et oui, le championnat de basket nord-américain ici aux États-Unis, Détroit battu à domicile pour le 12e match consécutif face à Oklahoma City. Décidément, ça va très très mal pour les Pistons. Défaite 94-96. Les Knicks de New York qui tombent, eux, face à Portland, 99-103. Et puis ça va mal, décidément, également pour Miami, finaliste malheureux de la saison dernière, puisqu'ils ont été battus à Memphis, 87-103.
Voilà, merci Nicolas Pineau pour les sports. Nous rappelons que Nicolas sera à nouveau en notre compagnie à 19h, temps universel, dans notre magazine Sporama. Restez branchés. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, chez Romain Dorsil et Morgane Guerriec en votre compagnie pour cette édition du 8 décembre. Dans un instant, les dossiers du jour.
De nombreuses réactions ont été enregistrées en République démocratique du Congo au lendemain de la formation par le président Joseph Kabila d'un gouvernement dit de cohésion nationale. Ce nouvel exécutif était attendu depuis octobre 2013 à la clôture des concertations nationales. Reportage de Isabelle Moengo de la radio Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Des avis divergent au sein de l'opinion au sujet du gouvernement de cohésion nationale nommé dimanche. Si, à la majorité présidentielle, on est satisfait que le président Kabila ait tenu promesse une année et deux mois après les concertations nationales, à l'opposition, le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba a exclu ses trois cadres nommés dans ce gouvernement, notamment son secrétaire général Thomas Louaka. Le sénateur Jacques Joly est membre du bureau politique du MLC.
Le président national du mouvement de libération du Congo, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, a été informé ce dimanche 7 décembre 2014 de l'acceptation par trois membres du mouvement de libération du Congo de fonctions ministérielles au sein du gouvernement dit de cohésion nationale. Le président national du parti prend acte de l'auto-exclusion et radiation de 1. Monsieur Thomas Louaka Losenjola. 2. Monsieur Omer Egwake Yangembe. 3. Monsieur Germain Kambinga Katumba.
À l'UDPS, on estime qu'il ne s'agit pas d'un gouvernement de cohésion nationale. Pour Joseph Kapika, le porte-parole du parti d'Étienne Tshisekedi, le gouvernement de cohésion nationale sortira après le dialogue.
Si gouvernement de cohésion nationale il y a, il sortira après le dialogue tel que prescrit par l'accord fédéraliste Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité.
À la société civile, on est surtout déçu de la faible représentation des femmes au sein de ce gouvernement. Sur les 47 ministres et vice-ministres, seuls 7 postes sont revenus aux femmes. Ce qui fait dire à Mme Cathy Kalanga, présidente d'une plateforme des femmes, que l'aspect genre n'a pas été pris en compte dans la composition de ce gouvernement.
Les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. Il a fallu qu'on en tienne compte. Nous déplorons cela et nous aimerions qu'on tienne compte des compétences des femmes.
Enfin, la population souhaite que ce gouvernement améliore le quotidien du Congolais et conduise le pays fin 2016 à des élections libres, démocratiques et transparentes.
Ce gouvernement doit être capable de nous emmener vers les élections libres, démocratiques, transparentes en 2016 et pour faciliter l'alternance au pouvoir parce que nous attendons aussi que le social du citoyen congolais change.
Une autre avis qui nous amène à manger, c'est ça notre avis. Nous avons fait.
Ce que nous voulons, qu'on améliore peut-être de façon qu'on a travaillé avant. Et puis nous ne voulons pas qu'on puisse bouger la constitution. Nous attendons de meilleurs.
Kinshasa, Isabelle Mwengo de Top Congo FM pour La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur le diamant centrafricain. Comment est-il un enjeu entre les différentes factions en Centrafrique ? Bagassi Koura nous proposera des reportages et témoignages pour mieux cerner le sujet. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU.
En Côte d'Ivoire, Kwadio Konan Bertin, un député de la majorité, s'est déclaré candidat à la présidentielle de 2015 face au chef de l'État Alassane Ouattara. Kakabé, comme on le surnomme, ouvre une brèche dans l'apparente unanimité de la coalition au pouvoir. Jean-Roger Bion a joint à Abidjan Kwadio Konan Bertin pour connaître ses motivations.
J'ai en effet déclaré ma candidature pour deux raisons. La première, c'est que je prends mes responsabilités à compter d'aujourd'hui pour sauver le PDC-IRDA, le parti de Félix Houphouët-Boigny. La simple raison que lors de sa visite en Côte d'Ivoire, le président français François Hollande a été clair en disant aux Africains qu'un parti politique qui qu'il ne va pas aux élections présidentielles court à sa perte. Or, le président Bédié semble vouloir dire que notre parti devrait soutenir quelqu'un d'autre. Donc, en clair, nous n'avons pas de candidat en 2015. Si nous n'avons pas de candidat en 2015, ça suppose que nous sommes d'accord pour tuer le parti d'Oufouet Boigny, le PDC IRDR. C'est cela que je refuse. C'est pour cela que la mémoire d'Oufouet est pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je vais sauver son œuvre.
Vous allez manifestement à l'encontre de l'appel de votre parti. Est-ce de la défiance? Est-ce que vous tournez le dos au PDCI?
Je ne tourne pas le dos au PDCI, bien au contraire. C'est ceux qui agissent sans tenir compte des résolutions du parti, enfin du dernier congrès, qui non seulement trahissent, mais agissent contre le PDCI-RDA et tournent le dos au PDCI-RDA. Le dernier congrès a été clair dans ses résolutions. Il a demandé que le PDCI ait un candidat, mieux un militant actif. Demander que l'application des résolutions de notre congrès, ce n'est pas tourner le dos au PDCI, bien au contraire. Ceux qui disent autre chose, c'est ceux-là qui sont indisciplinés et qui trahissent le PDCI-RDA. C'est donc eux qui tournent le dos au parti.
Sans appareil pour vous accompagner à ces élections de 2015, comment comptez-vous relever le défi de la mobilisation?
Je suis bien, bel et bien, le candidat du PDCI-RDA. J'ai été pendant plus de 12 ans membre du bureau politique. J'ai géré ou conduit la jeunesse du parti pendant plus de 12 ans, membre du secrétariat général. Après cela, comment vous pouvez vous imaginer que je puisse me présenter sans l'appareil du PDCI-RDA? Je vous dis que les militants du PDCI ont besoin d'un candidat et ils avaient besoin qu'un des nôtres, un parmi nous, prenne ses responsabilités. C'est ce que j'ai fait et croyez-moi, je suis le candidat du PDCI-RDA.
Kwadioko Nambertin, alias Kakabé, candidat à la présidence en Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Environ 1 million de Mauriciens doivent se rendre aux urnes ce mercredi pour choisir 62 députés des 729 candidats en liste. Pour la toute première fois depuis l'indépendance de Maurice en 1968 de la Grande-Bretagne, les électeurs sont appelés à se prononcer sur un éventuel renforcement des pouvoirs, aujourd'hui largement symbolique, du président de la République et le faire élire au suffrage universel direct. Et c'est surtout cette proposition qui a dominé la campagne électorale, mettant aux prises deux grandes coalitions. Pour un explicatif, Jacques Aristide s'est entretenu avec le journaliste Finlay Salessé de Radio One.
La coalition gouvernementale, entre guillemets, qui regroupe le parti travailliste du docteur Amgoulam, le premier ministre sortant, et son partenaire qui était dans l'opposition, le MMM de Paul Béranger, cette coalition a proposé, entre autres mesures, un amendement constitutionnel visant à faire de l'île Maurice une deuxième république qui verrait un président, cette fois-ci, élu au suffrage universel et disposant de certains pouvoirs. Et vous savez bien, l'île Maurice est assez conservatrice. Cette proposition n'a pas été très bien expliquée. Ils ont fait preuve, pendant toute cette campagne d'ailleurs, d'une absence de pédagogie et née à partir de cette proposition, une confusion monumentale.
Alors pour le chef du MMM, Paul Béranger, donner plus de pouvoir au président, c'est ne plus concentrer tous les pouvoirs dans les mains d'une seule personne, le Premier ministre, et donc assurer un système plus démocratique.
Il a certainement raison, parce que tous les pouvoirs, comme vous le savez vous-même, depuis Sassou Sagar Amgoulam et son fils a hérité de ce costume, donc de tous les pouvoirs, vous savez vous-même, c'est-à-dire le Premier ministre a pouvoir de vie ou de mort sur votre carrière politique. Le Premier ministre nomme le chef juge, nomme le commissaire de police, nomme le responsable de la commission électorale, enfin, nomme tout le monde. Et là, heureusement, cette proposition qui a été faite permet quand même un partage de pouvoir.
Xavier Duval, de l'Alliance Les Peps, craint au contraire que la réforme, bancale à ses yeux, ne favorise l'émergence d'un petit roi qui bénéficiera d'une immunité civile et criminelle et pourra faire ce qu'il veut pendant 7 ans. C'est fort, n'est-ce pas?
Alors, Xavier Duval n'est qu'une composante du cartel des oppositions. C'est un héros de journée du MSM qui est le chef de cette alliance qu'on appelle l'Alliance. Le peuple est PEP. Xavier Luc Duval estime que le président aura trop de pouvoir cette fois-ci. Bon, on verra bien. Le débat fait rage. Vous savez, quand on arrive à 2-3 semaines des élections, il n'y a aucun débat qui puisse être fait à Maurice, manifestement en toute lucidité. Tout se fait dans l'émotion. À tel point qu'on oublie que, disons, la Deuxième République apportera d'autres réformes électorales comme l'abolition du best-loser système et autres propositions. Et c'est dommage que cette campagne ait buté sur cette proposition parce qu'elle a été mal expliquée jusqu'à maintenant.
Le journaliste finnais Sales de Radio One, joint à l'île Maurice.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Mali, les activités reprennent dans la région de Tombouctou, non sans peine. Si la ville ne connaît pas de problème d'eau ou d'électricité, dans certaines communes, les écoles sont fermées, les services sanitaires sont assurés par Médecins Sans Frontières, surtout au niveau de l'hôpital de Tombouctou. Pour le moment, les populations, surtout les jeunes, se réjouissent de la reprise des activités, même si l'inquiétude majeure demeure les attentats terroristes. Kassim Traoré, qui vient de visiter Tombouctou, nous parle du retour des déplacés et de la reprise des activités en général.
La reprise des activités se fait petit à petit dans la cité de 333 Saints. Tombouctou vit au rythme de la reprise. Cela est perceptible au niveau de l'école de cette localité.
Je m'appelle Mohamed Aguissa. Actuellement, je suis en service au lycée Mohamed Alassane Haïdara de Tombouctou. Aujourd'hui, les enfants partent normalement à l'école. On ne sent pas qu'il y a une situation anormale par rapport au reste du pays sur ces points-là.
Tombouctou est l'une des rares villes des régions nord du Mali où il y a l'électricité 24 heures sur 24, ce qui est une bonne chose pour la jeunesse de la cité de 333 C.
Moi, c'est Wakrin Maïga, je suis le vice-président du conseil régional de la jeunesse de Tombouctou. Il faut le dire qu'il y a une nette amélioration aujourd'hui. La majorité des déplacés est revenue, la tranquillité a commencé, la jeunesse s'occupe vraiment de ses activités quotidiennes, sauf qu'on a une préoccupation, il s'agit vraiment du problème de terrorisme qui peut arriver n'importe quand et n'importe comment.
Pendant l'occupation, les femmes ont été les principales victimes des occupants. Certaines ont été violées, mais grâce à l'appui ou au soutien de certaines ONG, elles ont pu s'en sortir. Comme nous l'explique ici Fadi Traoré, activiste.
Donc c'est vraiment les ONG qui ont été avec les populations pendant, après la crise et jusqu'à présent. Ce qu'ils font, c'est vraiment remarquable. Sans eux, je ne sais pas ce que le Nord serait devenu. Parce qu'ils sont là avec les gens, ils les aident, ils les soutiennent.
Sur le plan sanitaire, beaucoup reste à faire. Si l'on sait que l'hôpital de Tombouctou est toujours entre les mains des Médecins Sans Frontières.
Pour ceux qui comprennent, ils savent que c'est MSF qui prend en charge l'hôpital régional et certaines bonnes volontés qui sont là sur place, qui font du volontariat. Mais jusque là, vraiment, le point noir, c'est vraiment au niveau de la santé.
Dans 16 communes des cercles de Tombouctou, Goundam et Direi, il n'y a pas d'école, faute d'enseignants. Pour éviter cette situation, l'ONG AN vient au secours des enfants. Moussa Cissé, coordinateur de l'ONG AN.
La stratégie ici, c'est vraiment ces enfants qui n'ont pas eu la chance d'accéder à l'école. Il faut vraiment les récupérer. Et ils auront une formation de 9 mois, donc à l'issue de laquelle ils seront maintenant déversés dans le système formel.
En plus des services sociaux de base, les populations de Tombouctou souhaitent aussi le retour des services comme l'impôt, le trésor public et certaines banques. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. La rappeuse américaine Nicki Minaj en concert au Zénith de Paris le 25 mars 2015. Mais bonne nouvelle pour ses fans en Europe. Hein. La rappeuse vient juste d'annoncer les 15 dates européennes de sa tournée The Pink Print Tour. Et elle foulera la scène du Zénith de Paris le 25 mars prochain. On écoute ce soir Nicki Minaj dans Your Love, un remix avec l'artiste Flo Rida. Voilà Morgane, c'était un remix de Nicki Minaj et Flo Rida, Your Love.
Merci Roger.
Mais c'est moi qui vous remercie Morgane.
Retrouvez Roger Muntou tous les soirs dans le RM Show à 20h temps universel.
Et c'est la fin de cette édition qui a été mise en onde par Joselle Morissin avec Wagner Robert à la console technique.
Merci à toute la rédaction, au micro Morgane Guiriec et chez Rubin Dorcy. Like I'm all reindeer, reindeer, no, not Santa Claus. It's just money, 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 money when it fall. Like with a lifeguard, I'ma drown, ain't it y'all? Ooh, right stroke, left stroke was the best stroke. Death stroke, tongue all down the throat, that's big.